Bonjour et bienvenue dans la rubrique 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un quatrième épisode consacré aux intégrales de l'incroyable Hulk. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Spider-Man. Comment ça va, Spider-Man?
Bonjour, ça va très bien. Et toi?
Alors, comme on va rien se cacher, on va se dire les choses. Comme je te disais tout à l'heure en préambule,
La merde.
c'est la merde, quoi. C'est la merde. Je suis un poil fatigué pour diverses raisons personnelles. Ouais, on va dire que je suis dans le dur, mais ça va. Et je suis surtout excessivement content de faire un quatrième épisode de cette émission avec toi. Est-ce qu'on doit
Pareil.
rappeler le principe?
Je ne pense
Oui,
pas.
on va rappeler. Oh, si, on le tente quand même.
Allez, vas-y.
Allez.
Surtout, vu 89, les gens vont peut-être commencer maintenant.
Oui, si vous avez commencé à écouter nos émissions avec 1989, bon, il fallait en passer par là. Bref, je vous réexplique un tout petit peu le concept. On a décidé, Spider-Man et moi, de revenir sur les intégrales Hulk, les intégrales qui reprennent en majorité le run de Peter David. Donc, elles ne sont pas toutes sorties au moment où on tourne ces vidéos. On est en 2021, des fois que vous nous regardiez dans le futur en 2025. J'espère que c'était mieux dans 4 ans, parce que pour l'instant, c'est pas ouf ouf, hein, je vous le dis tout de suite. C'est la merde, hein. Et on a décidé, bah voilà, de relire ces intégrales, à chacune de ces intégrales, de vous proposer une vidéo que vous pouvez retrouver soit sur ma chaîne YouTube, les rubriques de G, ou quelques jours après la première diffusion sur YouTube, en podcast sur Deezer, Spotify, iTunes et depuis 48 heures sur Podcast Addict. Donc voilà, il n'y a plus aucune raison en fait de ne pas écouter ces émissions. On a donc déjà fait trois premiers volumes, un volume 87-88, un volume 88, un volume 89 qui a été le plus difficile, le plus douloureux, la mer de molle, la lanterne rouge, le bon dernier du classement, puisque c'était une intégrale où évidemment Peter David était au scénario, comme on l'a dit, mais c'était surtout dessiné intégralement par Jeff Purves,
Et
dit
on a
la
eu
taupe,
du
dit le Miro.
parce qu'il y a, il y a eu un certain temps avant qu'on lise 90, hein, parce que 89 on l'a lu quand même il y a plusieurs mois.
Avant l'été, hein, je crois, avant le début de l'été. Hein.
Ouais, ou pendant l'été, je sais plus trop. Mais
Ouais, là on est au mois de novembre.
ouais, on est au mois de novembre, mi-novembre, et ouais, on a eu du mal. Enfin, ça nous a calmé, hein. On va le dire comme ça, 89, ça nous a calmé. Et là, on s'y est remis, voilà, très récemment.
Ah, tu. Ouais, ça nous a mis un petit coup d'arrêt, et puis il y avait d'autres lectures, il y avait d'autres
Oui,
trucs,
aussi.
donc. Voilà, puis en fait, il faut aussi tomber sur le moment où on a le goût tous les deux et où on n'est pas en plein milieu d'une autre lecture.
C'est ça,
Voilà, il
c'est
faut
ça.
toujours que ça reste un moment plaisant. On ne fait pas ça pour les vues, on ne fait pas ça pour la YouTube Monnaie, on fait
Non,
ça pour
non.
kiffer, donc si tu veux, si c'est dans la contrainte, c'est un peu compliqué. Donc on s'excuse si vous avez un petit peu attendu l'épisode 89 et l'épisode 90, mais c'est la garantie pour nous de passer surtout un agréable moment et de vous faire une émission qui, je le crois, est relativement qualitative.
Tout à
Je
fait.
le crois, je l'espère. Et si c'est pas le cas, bah, je le prends très mal, parce qu'on le fait quand même avec...
On va arrêter. Allez, au revoir.
on y met du cœur, c'est pas normal. Soyez gentils. Et donc on part sur cette intégrale 1990 qui, je crois, est toujours disponible du côté de chez Panini Comics. Quel est
Oui.
le cadre général de cette intégrale? Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on rentre dans le détail, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, les grandes parties?
Alors, on va déjà avoir un premier arc en quatre parties, compte à rebours. Donc, bah en fait, c'est la fin de l'intervention de ce charmant Purves, qui va signer trois numéros et qui va donner la main à un certain Del Caone, qui jusque-là n'avait rien fait de, qui avait vraiment été remarqué, voilà, par le public. Donc, il
Quelques
débarque
covers.
vraiment là-dessus. Ouais, voilà, quelques petits travaux, mais rien de. Voilà, il n'avait travaillé sur aucun run, il débarquait, quoi. Et donc voilà, il arrive sur la série, un peu au pied levé, de ce que j'ai compris, parce que tout de suite après, il y aura un numéro par Sam Kiss, donc. Et ensuite, il va reprendre vraiment la série. Voilà, c'est. Ensuite, il n'y a que lui sur la série. Voilà, on va avoir une petite intervention des Defenders, voilà, ça va, on va rentrer dans le détail des différentes personnalités de Bruce Banner.
Voilà, ça y est, on va commencer à rentrer de plein pied dans ce qui fait le sel de ce run. Ouais. On aura mis 3 ans, hein, quand même.
Ah oui, ouais. Ouais.
Bon, tout n'a pas été douloureux, il y a vraiment le 89 qui a été difficile.
Oui.
Mais, oui. Mais voilà. Ce premier arc, comme tu l'as dit, ben voilà, hein, il y a 3 épisodes qui sont encore signés par Jeff Purves. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'histoire? C'est quoi à peu près le pitch de ces 3 épisodes?
En gros, ça commence. Il y a un certain Madman. Donc, d'ailleurs, l'identité de Madman nous est spoilée dans l'édito par Panini au début de cette intégrale, parce qu'elle nous avait déjà spoilé. Donc la fausse couche de Betty juste avant, là il nous spoil l'identité de Madman.
Et donc, méfiez-vous des éditos.
Évitez de les lire
à la fin.
Bon, après voilà, c'est pas très, très grave, ça reste un méchant de 56e zone, donc, voilà. Madman donc qui veut donc tuer Hulk et qui va empoisonner donc Bruce Banner. Et Bruce Banner, entre-temps, va se transformer en Hulk. Hulk va remarquer qu'il y a un souci. Et ensuite, ça va, bah, comme l'indique voilà, le titre de cet arc, ça va être un compte à rebours. C'est que Hulk ne peut pas redevenir Banner sous risque de mourir de ce poison. Donc, il va essayer de chercher un peu de l'aide un peu partout. Et donc, à chaque épisode, donc il y a 4 épisodes, à chaque épisode, ça va se concentrer sur certains personnages. Comme le premier, par exemple, on voit l'Abomination qui fait une petite apparition.
Et ça fait toujours plaisir à titre personnel.
Ouais, j'étais content de le voir débarquer. Ouais. Donc l'histoire,
j'ai l'arrivée des bricoles.
Voilà. L'Abomination. L'histoire de cet arc est assez sympa, mais bon, ouais, bon, les 3 premiers numéros, on reste sur du dessin par Purves, qui n'est pas son pire niveau, en fait. C'est.
Ni à Peter David. Après, je sais pas ce que t'en penses.
Oui, on sent qu'il commence à revenir, en fait.
Voilà. Mm. Autant, tu vois, j'ai eu l'impression que quand Purves est arrivé, il y a eu, on va dire, les premiers épisodes où il y avait quand même une qualité relative qui était là. Il y avait des choses qui se mettaient en place qui étaient quand même relativement intéressantes. Mm-hmm. La qualité du dessin, tout ça, c'était pas top. C'était vraiment à la fin de l'intégrale 87-88. On n'était pas complètement dégoûté. Et c'est vraiment... Non, de l'intégrale 88. Ouais, et c'est vraiment l'intégrale 89 qui ça nous est tombé des mains à tous les niveaux. Ouais. Quoi, au niveau dessin, au niveau scénario, bon, c'était...
Ça racontait rien, c'était moche. Voilà.
Et là, j'ai vraiment eu le sentiment sur cet arc-là que Peter David remettait un tout petit peu le nez dans ses scripts et qu'il nous faisait une il reprenait les rênes de sa série, il nous proposait une histoire relativement sympathique et qui fonctionnait globalement plutôt pas mal. Et que Purves, ancré par Marie Séverin, si je dis pas de bêtises,
c'est ça,
c'était pas le plus dégueulasse du monde. Voilà. Après, j'avais noté 2-3 petits trucs moi, qui me semblaient importants en fait, de signaler aussi pourquoi, à mon sens, Purves et Peter David, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on est sur un personnage, l'incroyable Hulk, qui est effectivement extrêmement graphique comme personnage, de par la démesure des muscles, la démesure de puissance. Voilà, c'est extrêmement graphique. Que Purves, en termes de dessin, c'était quand même pas foufou. Et en plus, Peter David, il met souvent, régulièrement, beaucoup d'humour en fait dans ses épisodes. Et pour que ces blagues soient réussies, il faut qu'elles soient soutenues par un dessinateur, par un dessin qui met réellement en valeur la blague, qui appuie la blague qui est en train de faire Peter David. Et si on fait attention, en fait, dans ces épisodes-là, Purves, est-ce qu'il parle seulement la même langue que Peter David? Est-ce qu'il se parlait? Est-ce qu'il se comprenait? Enfin, j'en sais pas, mais tout, les blagues tombent complètement à plat, tout tombe à l'eau. Et ce sera d'autant plus flagrant lorsqu'on reparlera un peu plus tard de Del Kuhn et encore beaucoup plus tard de Gary Frank, où on voit vraiment que là, on aura 2 dessinateurs qui vont vraiment se mettre au service aussi de Peter David à ce niveau-là. Ouais. Graphiquement, ils vont vraiment réussir à beaucoup mieux le soutenir.
C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, tu parlais de Marie Séverin donc à l'ancrage. Et on en parlera peut-être plus à l'épisode où il y a Del Kuhn qui arrive, mais je pense qu'elle faisait un peu partie du, du problème en fait à l'ancrage parce que.
Mais c'est là où voilà où ouais. On n'a peut-être pas la même vision des choses. C'est-à-dire que le dernier épisode, Jeff Purves, ça y est, hein, il a plié les gaules, il a enlevé sa boîte de crayons de couleur dans son bureau chez Marvel.
Il a dit c'est bon, c'est fini, rentre chez toi, tu rends ton badge, tu rends ton badge.
Ah oui, tu libères la place de parking, Jeff. Merci, au revoir. Et nous ne le reverrons jamais, Jeff.
Et heureusement.
Et donc, il termine carrément pas l'arc. Et c'est. il devait vraiment avoir un CDD de 25 épisodes.
Ah, genre. Ouais.
Et je peux finir le 26e pour. Non, bien vrai. Ça va aller, merci. On va trouver une autre solution. Et il a plié les Gaules. Et donc, c'est Delkyon qui reprend les rênes et qui fait ce dernier numéro. Alors, évidemment, c'est toujours particulier quand dans un arc, tu as le dessinateur principal qui fait 3 épisodes et un nouveau qui arrive et qui fait le 4e.
Au pied levé, apparemment, de ce qu'on a compris.
Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'arrivée de Delkyon sur cet épisode précisément?
Alors, déjà, c'est un peu. On ne peut pas vraiment juger. Parce que, bon, déjà, c'est inférieur au niveau qu'il a sur l'épisode qu'il fait ensuite tout de suite derrière. Donc là, vraiment, il arrive. Moi, j'ai senti qu'il n'avait pas beaucoup de temps, en fait, pour le faire. Et on a un Hulk qui est, à cause du poison, qui est extrêmement amaigri, affaibli. Donc, ce n'est pas un Hulk qu'on reverra plus tard. Donc, c'est déjà un style un peu. Voilà, il a essayé vraiment de montrer un Hulk aminci, amaigri, tout en jouant avec sa grosse carrure de base. Voilà, c'est un peu compliqué.
Tout à fait. Et il
s'en sort bien, mais on sent qu'il a dû vraiment le faire un peu dans l'urgence, l'épisode. Et c'est ancré par Marie Séverin. Et j'ai l'impression, personnellement, que Marie Séverin, c'est pas en fait une encreuse très bonne, en fait. Et ça a dû aussi peut-être jouer sur Purves. Après, Purves, le truc, c'est qu'il y avait différents encreurs. Donc, soit ils étaient tous mauvais, et c'était de la faute des encreurs, et je pense pas. mais là, pour le coup, Marie Séverin, je sais pas, c'est...
Je me demande si la solution qu'ils n'ont pas trouvée, c'est de dire à Marie Séverin, bon, ne prends pas ton stylo bic habituel, prends un marqueur.
Tu prends un peu de peinture.
Gras, vraiment relativement épais.
Et t'en mets partout.
Ouais, grave. Et partout. Est-ce qu'elle ancre trop grassement tout le monde, ou est-ce qu'elle a voulu mettre une certaine, entre guillemets, unité graphique entre les 3 derniers épisodes de Purves et le premier de Delkyon, pour que l'arc soit grosso modo, on va dire, cohérent graphiquement. Moi, tu vois, je pense que c'est plus ça.
Alors qu'elle ait gardé une certaine habitude qu'elle avait prise avec Purves.
Peut-être.
À trop repasser peut-être sur les dessins. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle gomme un peu le style de Keon. Je veux bien qu'il ait fait ça dans l'urgence, mais quand tu regardes vraiment ce numéro et le numéro qui est derrière, il y a une sacrée différence, quoi. Vraiment, l'encreur joue beaucoup, je pense que à ce niveau-là, il y a...
Ce que je te propose, c'est qu'on l'appelle tout de suite en direct pour...
Bonjour Marie.
Pour savoir ce qu'elle en pense. Marie, on voulait te parler d'un épisode d'il y a 30 ans.
C'est ça. Est-ce que tu t'en souviens?
Voilà. Et en plus, et je suis à peu près certain qu'elle... je ne sais même pas se trouver les mortes. On n'a pas fait de recherche Wikipédia, pour être tout à fait honnête.
Si j'ai regardé, elle est morte, je crois.
Toutes nos condoléances.
Elle était, si je ne dis pas de bêtises, elle était chargée à la base de corriger des planches que Marvel recevait au bureau, parce qu'à l'époque, les dessinateurs envoyaient par la poste. Hein, et du coup, la poste, ça par contre, ça n'a jamais changé. La poste défonçait les colis. Et en fait, elle était, elle était responsable de restaurer en fait, les planches. Ou carrément de les refaire des fois quand en fait la poste les paumait. Donc ça n'a pas changé non plus. Tu vois c'est beau de savoir qu'on peut compter sur des constantes. Tu vois
c'est ce que j'allais dire. Il y a un petit côté rassurant. Tout ne change pas dans ce monde. Il y a toujours des choses sur lesquelles on peut compter. C'est pas forcément les meilleures, mais on peut compter là-dessus. Et voilà, et ça termine gentiment cet arc-là qui vraiment n'est pas le plus désagréable. Comme je le disais tout à l'heure, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir l'Abomination. L'Abomination qui va prendre une petite crachouillée d'acide dans la gueule.
D'ailleurs, quand tu vois la tronche qu'il a après ce jet d'acide, je te demande quand il peut encore être conscient et vivant. Enfin, ils font, hein, quand même.
Peut-être qu'on le reverra plus tard.
Ouais. Puis on voit aussi les 4 fantastiques, du coup, comme on le disait tout à l'heure.
Ouais.
On est sûr. Donc, bah, Hulk cherche de l'aide hein, auprès des 4 fantastiques pour ce poison, donc auprès de Mister Fantastique. Et on arrive typiquement sur un épisode de. On cogne d'abord pendant plusieurs pages et on s'explique ensuite.
Il y a un moment qui est intéressant parce qu'on est sur la période des 4 fantastiques où c'était Sharon Carter qui était la chose et Ben Grimm n'avait plus ses pouvoirs, était de nouveau humain. Et il y a une conversation entre Ben Grimm et Joe Fixit au bar qui est relativement intéressante avec une échelle de puissance voilà, inversée. Et je trouvais que. Moi, je trouve que ça fonctionne toujours bien en fait quand, bah, quand Peter David il fait discuter les deux. Quoi. C'est, ça fonctionne quand même pas mal du tout. Pour moi, c'était vraiment le petit plus. Voilà.
C'est toujours colorisé aussi par Glynis Oliver. Une coloriste qui avait beaucoup travaillé sur Amazing Spider-Man, les FF ou Uncanny X-Men, ou les New Mutants même. Et qui, pour la petite anecdote, était à un moment la femme de Len Wein. Le co-créateur du personnage de Swamp Thing avec Bernie Wrightson.
Mais dis donc, t'as bossé ?
Ah, ah, je fais mes devoirs, monsieur.
C'est beau, c'est beau. Et à noter également que les 4 couvertures de ces épisodes sont signées Walter Simonson.
Ça, c'est beau aussi.
Et ça, c'est beau aussi. C'est pas mal du tout. Je crois pas qu'il en ait signé beaucoup sur Hulk. Et il a signé ces 4-là. Et voilà, et ça fait relativement plaisir. Exit la période de Jeff Purves. Oui, vas-y.
On a quand même du lourd, hein, je veux dire, au niveau du dessin, que ce soit encreur, dessinateur. On a quand même du lourd maintenant, là, sur les, à partir de maintenant, sur les épisodes qui arrivent.
Là, ouais, grands... voilà. À partir de maintenant, on commence vraiment à rentrer dans ce qui est à la fois ma période préférée, ma Madeleine de Proust. Voilà. À savoir que là, les épisodes. Qu'on a lu jusqu'à maintenant et qu'on lit là maintenant, en fait, c'est des épisodes que j'ai lus avec l'intégrale. Tout ça, moi, je ne l'ai pas lu en France en VF du côté de chez Semic. Je sais que la série, en fait, chez Semic, elle a commencé avec l'arrivée du professeur Hulk, donc en 91, TVO. Et moi, je ne l'ai pas commencé au début, je l'ai commencé sur un épisode bien précis, mais ça, j'en reparlerai en temps et en heure. Je te dirai à quel épisode précisément j'ai commencé, comment ça s'est passé, etc., etc.
D'accord.
Et donc, pour le 5e épisode de cette intégrale, on nous propose une petite interlude. Un interlude.
Comme on le disait, Keon est arrivé un peu à l'arrache et du coup, il ne pouvait pas vraiment enchaîner comme ça tout de suite derrière. Donc, on a demandé à un certain Sam Kiss de dessiner. Sam Kiss, c'est le créateur de la série The Max, qui sera réédité, je crois, chez nous dans pas longtemps. Les éditions Réflexion, je crois, qui ont annoncé ça. Une série célèbre hein, aux US. Et il a aussi participé au design de Sandman, de Neil Gaiman. Il a même signé les 5 premiers épisodes.
Ah, mais en fait, c'est pas t'as bossé, c'est t'as vraiment, t'as bûché.
Ah, ouais,
mais. Je vois que tu as décidé de vraiment donner le meilleur de toi-même. On sent que cette intégrale te tenait à cœur.
Et d'ailleurs, cet épisode est ancré donc par Sam Kiss et en collaboration avec Kelly Jones. Kelly Jones, qui est le co-créateur des New Mutants avec Chris Claremont. Je sais qu'on a du beau monde.
Pôle de culture. Non, mais carrément. Carrément.
Et c'est toujours colorisé par Glynis Oliver. Au final, la seule qui reste vraiment... de la période Purves. Elle va rester sur tout le reste. Quoi.
Et Peter David, qui accessoirement va rester aussi.
Ouais, il est à point moment.
Ouais, c'est clair. Il va rester.
Et donc, on a un petit numéro, donc vraiment interlude, un peu déconnecté de tout le reste, hein, plus ou moins. Enfin, oui et non, parce que en fait, Banner est chassé, donc. Et pour chasser, donc le gouvernement veut l'attraper et il va prendre un peu à la volée le premier train qu'il croise hein, pour retrouver Betty, qu'il a appris qui était vivante. Et dans ce train, il va rencontrer ben, une créature qu'on pourrait comparer, enfin, en tout cas, cette créature se compare à Mr. Hyde.
Ah bah c'est le perso Marvel Mr. Hyde, hein, et qui existe, ouais. Qui est un ennemi, je crois, de Spider-Man aussi, qu'on voit quand même relativement régulièrement. Ah bah là, on est carrément sur... Je n'ai pas fait spécialement de recherche sur le perso, mais on est carrément sur un repompé, un ressucé du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais,
ah oui, bah il le dit. Quasiment en fait, hein. Il le dit lui-même parce qu'en fait, quand il parle, parce qu'il a l'air d'en connaître beaucoup sur le Dr. Banner et son alter ego. Et en fait, il parle du roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de l'histoire. Et en fait, il s'est décrit comme un scientifique qui a créé une sorte de sérum pour faire ressortir son côté Mr. Hyde. Donc,
c'est tout à fait ça. C'est le... voilà. Je sais pas si on le revoit pas dans Agent Venom. C'est le moment où je vais dire une bêtise et où je vais devoir mettre un disclaimer.
Moi, ça me disait rien du tout. J'ai peut-être déjà lu, mais...
Et je crois que c'est dans Agent Venom. À vérifier. Dites-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai recroisé dans un Deluxe qui est ressorti là, il y a peu de temps. Et le truc qui marche bien en fait là-dedans, c'est quand tu mets en perspective le fait que l'incroyable Hulk, dans sa création, c'est un mélange entre le Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Frankenstein. Mm-hmm. Et quand tu vois Mr. Hyde qui parle du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ah, l'incroyable Hulk, enfin à Banner, forcément ça donne quelque chose de sympa. Et c'est vrai que graphiquement, le moment où Banner se transforme en Hulk gris, en Joe Fixit, ça me kiffe. Franchement, ouais. Il envoie du lourd, quoi. Un petit côté joue, Liam Clark, je trouve.
Ouais, très précis, les expressions du visage, finement dessinées. Il joue aussi avec les cases. Avant, t'as Hulk qui écrase quelque chose ou qui s'appuie fort sur quelque chose, ça touche la case du bas et tu vois en fait la partie blanche de la feuille craque en fait. Tu vois. Ouais. Donc il joue même les onomatopées quand Hyde chope Banner, et donc qui est pas transformé encore et qu'il l'écrase contre la paroi du wagon, et t'as l'onomatopée derrière le dos de Banner et même l'onomatopée craque comme ça. Tu vois. Donc c'est tous des petits trucs comme ça. Il joue beaucoup avec les cases, il fait plaisir quand on voit que c'est... Ouais, non, c'est vraiment très beau, l'histoire est très sympa. Et on a Peter David qui pose quelque chose qui s'appelle Prométhée, le mont.
Ouais.
Comme ça.
C'est l'apparition, du Panthéon, le mont qui est la base du Panthéon, et Prométhée qui est un des agents du Panthéon. Et qui commence à apparaître, à être teasé dans ce numéro. Et ça va être un fil rouge dans les numéros suivants, jusqu'à la rencontre officielle entre le Panthéon et l'incroyable Hulk. Et tu vas suivre en fait cette menace. Tu sais pas trop. Enfin voilà, tu vas tout le temps le voir sur.
Non, c'est pas. Hein, ouais. Voilà, parce qu'il dit juste Prométhée au mont. J'ai repéré la trace de Banner. Il y a une voiture. Très rapide, assez puissante, une bagnole un peu profilée missile comme ça. Et voilà, ouais, il distille quelques petits trucs à chaque fois comme ça. On le voit apparaître, on voit une petite phrase, une petite case par-ci. Donc, ouais, il place tout doucement ces petites pièces. Mais ouais, un bon épisode.
Sur le design de la bagnole, tu vois, c'est marrant parce qu'on est vraiment. Je me rappelle ce qu'on disait sur la première intégrale 87-88, tu vois, où vraiment on était. C'était les années 80, tu vois, graphiquement, avec des boutons partout et tout. Mmh. Et je trouve que dans le design de la bagnole, on est déjà plus dans cette époque-là. On est déjà dans la décennie suivante.
C'est vrai.
Ça reste très caricatural, mais on a déjà passé un cap.
Tu sens que c'est différent. Ouais.
Et tu vois, moi, le truc qui me fascine avec cet épisode-là, c'est que tu te dis, généralement, quand tu as un petit épisode de transition, généralement, c'est l'épisode que tu achètes et où tu sais que tu vas te faire chier pendant un mois et tu vas te ronger un peu les sangs en attendant que ça y est, il y a un nouvel arc qui va s'installer.
Ouais.
Et là, pas du tout, quoi. C'est vraiment un trait d'union de grande qualité. Vraiment.
Ah oui, c'est clair. C'est clair, ça fait vraiment le parallèle Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On peut dire parallèle évident, mais c'est bien fait. Il appuie beaucoup sur. En fait, il sait ce que ressent Hulk. Quand il lui dit En fait, Joe Fixit, il apparaît que la nuit parce qu'en fait, t'as honte de ton alter ego, t'as honte de ce que t'es vraiment en fait à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que tu te transformes pas la journée. Même si à ce moment-là, il y a quand même eu quelques petites exceptions et qu'on a vu quand même un peu Joe Fixit apparaître de plus en plus en journée. Mais ouais, voilà, une conversation
déjà sympa. Cette règle se craquelle déjà.
Oui, tout doucement. Voilà.
On sent que là, c'est en train de se fendiller, ce statu quo, gentiment. Mmh. Et ensuite, alors, on va se le dire bien tranquillement. C'est-à-dire que pour préparer les émissions comme ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'ai fait aussi avec Anto pour l'intégrale Spider-Man. Généralement, tu vois, je lis un épisode avec mon téléphone à côté et je prends soit des notes au fur et à mesure, soit des notes, en fait, à la fin, sur des trucs qui m'ont marqué, ce genre de choses. Et le moment où j'ai arrêté de prendre des notes, c'est l'épisode suivant. Très clair. Ah, je vous le dis tout de suite. Moi, je me suis mis en mode
fangirl.
Ouais. Ah, ouais, grave. Mais vraiment. Groupie. Mais bon, là, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous n'aurez pas la tête que je vais faire maintenant. Mais littéralement, j'étais comme ça. Ah, vraiment. Pour les vieux de l'époque. Mais vraiment, j'ai pas pu en fait poser le livre. J'ai fait un premier passage jusqu'au soir. Je l'ai posé, j'étais enivré et groggy de ce que j'avais lu, de ce que j'avais vu, enfin, j'ai kiffé. J'ai terminé le lendemain, je crois quasiment au réveil, tu vois, j'ai repris le truc et j'ai fait un grand tout droit, et puis le soir après c'était fini, quoi. Et j'ai pris des notes juste quelques heures avant de préparer cette émission, donc tout n'est pas forcément très frais, et j'étais vraiment dans simplement un grand moment de plaisir, vraiment.
Pareil.
Et donc Delchione reprend avec Peter David, il devient le dessinateur titulaire. Ouais. Il est accompagné à l'ancrage, ce qui a vraiment son importance, par Bob MacLeod.
MacLeod. Mm-hmm.
Du clan des
MacLeod, les Immortels. Hein.
J'étais pas obligé de la faire. Voilà, il peut en rester qu'un, et on espère que ce sera Bob, tu vois. Parce que voilà. Mais magnifique, quoi. Mais quel magnifique duo que Delchione et MacLeod, direct, hein. Dès le premier épisode, moi, j'ai pris une claque, assez dingue. Si je te fais juste le pitch de ce premier épisode, et après, on fait les trois d'un coup, on avait dit
Oui, après, ils sont plus ou moins liés, donc...
En fait, on garde toujours à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il y a la toile de fond qui se dessine, où on a la toile de fond où on a Hulk qui essaye, enfin Banner, qui essaye de retrouver Betty et qui doit gérer à la fois évidemment son alter ego Joe Fixit et évidemment toutes les menaces et tous les emmerdes qu'il va rencontrer sur sa route, ni plus ni moins. Alors, des fois, ça va être le gouvernement américain, des fois, ça va être Mr. Hyde, et cette fois-ci, c'est la Freedom Force. La Freedom Force, qui est une équipe de... C'est la Suicide Squad des mutants, en fait.
Ouais,
c'est une équipe de mutants, des vilains, mais qui sont gérés par le gouvernement. Il y a Mystique, le Blob, l'autre dont j'ai mangé le nom, là, qui crache des flammes, qui utilise
le feu. Il y a Pyro, donc Colosse, le Blob, Commandant Pourpre, et Mystique, et Avalanche. Mais Avalanche, lui, apparemment, il est en convalescence, donc on verra pas.
Il avait un jour de RTT ce jour-là.
Oui, voilà.
Il était sur le canapé. Il s'est arrangé avec Mystique. Il avait son lundi.
D'ailleurs, je compte, je précise quelque chose. Je me suis planté dans mes notes tout à l'heure. Quand j'ai parlé de Kelly Jones à l'ancrage, en fait, c'est Bob MacLeod, le co-créateur de New Mutants avec Chris Claremont. Pas Kelly Jones.
Et voilà. Et là, tu peux essayer que tu vois, petit laps de temps, j'en connais deux, trois des fidèles de la chaîne qui ont déjà dû balancer un message en disant « Oui, c'est honteux !»
J'ai lu ça, puis je suis en train de me dire « C'est bizarre, c'est pas Bob MacLeod. » En fait, j'ai fait un coupé-coller malheureux, je pense, sur mes notes. Et voilà. Donc voilà, c'est Bob MacLeod.
C'est pas grave du tout.
L'encreur, d'ailleurs, qui restera pour l'instant, en tout cas, il reste jusqu'à la fin de cette intégrale.
Ouais, absolument. Et donc, après, en termes d'histoire, j'ai envie de dire, c'est du Peter David sur Hulk le plus classique. C'est-à-dire ouais. qu'il y a de l'humour, il y a de l'action. Le gros avantage, à titre personnel, c'est que à chaque case, pour moi, c'est une explosion. C'est une explosion visuelle, mais à chaque case, j'adore le dessin de Dale Keown à cette époque-là. Ouais. Pour moi, il est juste incroyable. Y a de l'humour et Dale Keown arrive à bien, comment dire, à bien aider Peter David sur ce point-là. Il y a des blagues qui fonctionnent très très bien et visuellement, bah, moi, ouais, c'est, ça fait partie. Je pense que Dale Keown, c'est mon dessinateur préféré sur Hulk. De tout temps confondu. Donc à partir de là, moi je suis subjugué. Voilà. Alors, ce n'est pas dénué de défauts. Attention, il y a des défauts. Il y a de temps en temps, notamment au début de cet épisode où tu vois Bruce Banner au tout début. Tu regardes le Bruce Banner au début de l'épisode et tu regardes le Bruce Banner à la fin de l'épisode. Il n'a pas le même physique.
C'est vrai.
Entre le début de l'épisode et la fin de l'épisode, il y a à peu près 2 ans de fitness boutique, tu vois, où il pousse de la fonte. Enfin, au début, après, c'est un gringalet.
Après, tu vois, ça, je sais pas si... si c'est pas logique, en fait. Parce qu'il y a un moment où il t'explique que Banner devient de plus en plus fort, en fait, physiquement. Il y a même un moment, quelqu'un qui lui dit, genre, t'as fait de la muscu ou, parce que... Tu vois, il devient mais de plus en plus bon.
Est-ce qu'il le justifie comme ça par cette pirouette de
Non, moi je pense que c'est vraiment la personnalité de Banner qui s'affirme comme l'une des personnalités principales de toute manière. Tu vois,
ou l'influence de Hulk qui fait qui devient peut-être plus grande et qui fait qu'il devient plus stock.
Son désir de tenir tête à Hulk, en fait. Donc, tu vois.
Je sais pas. En tout cas, c'est magnifique, quoi.
Ah oui, mais ça se voit tout de suite. Parce que donc, Banner, à ce moment-là, donc il est donc dans l'épisode précédent, donc il était dans le train, donc il se bat avec Mr. Hyde, il tombe du train, puis il vagabonde un peu et il finit dans une maison où il y a eu une tempête, un ouragan, je sais pas quoi.
Un ouragan, et
voilà, dans une maison sinistrée. Et donc, dès la première case, on le voit donc, dans cet environnement sinistré avec des habits déchirés. Et tout de suite, on voit le style de Keown tel qu'il sera pour les épisodes à venir. Et ouais, c'est.
Et il y a une case qu'on va retrouver souvent en fait avec Dale Keown, c'est quand tu vois Hulk de profil et qui hurle sur quelqu'un.
En plan.
Ça, on va le retrouver à plusieurs reprises, si je ne te dis pas de bêtises. Et je trouve que ce genre de truc, ça crève l'écran, quoi. Vraiment, son Hulk, à chaque case, il crève l'écran. Tu prends juste même la couverture hein, de cet épisode-là. Mais waouh, mais Hulk, il est trop impressionnant, quoi. Pour moi, c'est...
Ah, c'est clair.
C'est l'incroyable Hulk que je trouve le plus fou, quoi. Vraiment.
Ah, puis même au niveau des proportions. Au niveau des proportions, il fait moins boule de muscles un peu difforme qu'il pouvait avoir des fois même avec McFarlane, hein, tu vois. Là, c'est vraiment, ouais, il a un physique en V, c'est vraiment un colosse, quoi. Mais là, on est plutôt sur une sorte de dieu grec, c'est un athlète, comme vous pouvez le voir sur les statues.
Un vrai bodybuilder, quoi. Taillé pour un Arnold classique, enfin un truc...
C'est ça.
Vraiment stock, quoi. Avec toute la démesure, évidemment, qu'il peut y avoir autour du personnage, mais vraiment bien. Les deux épisodes suivants, c'était déjà un petit peu teasé dans celui-là, mais on va retrouver Hulk avec les Defenders. Il en croise du monde sur son chemin, hein, par contre, hein. On va pas se mentir. Ouais. Hein.
C'est clair.
Soit il y a vraiment beaucoup de super-héros, soit il n'y a pas de bol. Hein, sur
là, c'est quand même rencontre fortuite. Hein. Il tombe presque sur Namor. Et d'ailleurs, en parlant de Namor, ça m'a étonné en fait, de lire un Namor si sympathique.
Ouais.
Il est... Ouais, j'étais en mode, mais il est gentil. Et en fait, c'est vrai que le Namor moderne, je l'aime pas, je le supporte pas, et c'est pas le personnage, mais c'est le fait que j'ai l'impression que les auteurs l'écrivent mal. Ils veulent absolument le faire passer pour un connard, et quelqu'un de hautain, détestable, un roi, mais vraiment dans le sens le plus négatif du terme. Et bon, après, voilà, avec ce qui s'est passé, Avengers versus X-Men, la Force Phoenix, le Wakanda qui avait attaqué Atlantis à feu et à sang, donc on peut comprendre qu'il est. Mais bon, j'ai envie de dire, des cataclysmes comme ça dans Marvel, t'en as tout le temps, donc passe à autre chose en fait. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'il soit écrit comme ça, moderne, et là, j'ai vraiment apprécié le personnage pour le coup. Strange est fidèle à lui-même, mais Namor, ouais, j'ai découvert Namor en fait, limite, dans cet épisode.
Alors oui, il y aura les Defenders, mais il n'y a pas le Silver Surfer. Le
voilà,
Surfer d'argent, il n'est pas là. Et ils vont tomber dans une sombre histoire mystique de démons, d'univers parallèle.
Un démon d'un univers parallèle qu'on va un peu apprendre qu'en fait, c'est le sorcier suprême de cet univers. Et qu'en gros, il a défoncé son univers et qu'il cherche à passer dans le nôtre pour faire un peu la même chose. En fait. Et donc, il va essayer, voilà, via donc Hulk, Banner.
Tout à fait. Il va prendre possession du corps et de l'esprit de Hulk, Banner. Ce qui va foutre une merde mémorable dans son esprit.
Ah oui, là c'est vraiment l'élément déclencheur de tout ce qui va se passer après en fait.
Il y avait des petites craquelures, et là, là il y a une moche.
Le truc c'est ça, c'est qu'en fait ils sont au courant de cette invasion transdimensionnelle que Hulk au final, Fixit a réussi à refoutre vraiment, à refermer la porte on va dire. Mais Strange sent qu'il y a un truc qui va pas et donc il demande l'aide de Hulk et donc Banner. Dans son esprit, parle à Hulk. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une porte dans son esprit, et ben ils vont se dire tu l'as vu la porte là ? Chacun va dire non, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, en fait, le monstre, le sorcier suprême de l'autre dimension, sort de l'esprit de Banner, pas de cette porte, de l'esprit de Banner et prend possession du corps de Hulk.
Et ça tambourine à la porte.
On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et je t'avoue, moi, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et même avant, quand la porte s'ouvre et que bon, ils résolvent un peu le truc vite fait, et j'avais pas compris. Tu vois, et donc, il y en a aussi tout cet épisode. Donc, quand ce monstre, ce sorcier suprême, donc prend possession de Hulk, tout cet épisode en noir et un peu blanc.
Ouais, tout à fait.
Tout fait en ombre comme ça, qui est vachement bien fait.
Ouais, carrément.
Qui fait vraiment ressortir le côté monstrueux, en fait.
Et tu vois, le truc que je sais pas, et que j'aimerais beaucoup savoir, c'est-à-dire que pour moi, c'est le premier souvenir que j'ai, dans ma connaissance, tu vois, d'un épisode où il y a une partie, en fait, de l'épisode qui se passe dans l'esprit de Banner, où l'esprit de Banner est matérialisé. Et où dans cet esprit, tu as le Hulk gris et Banner qui discutent, et donc cette porte. Voilà. Et je ne sais pas si ça a déjà eu lieu dans des épisodes précédents, sur des runs différents, ça je serais très très curieux de le savoir. Est-ce que c'est une idée de Peter David et qu'il a initié, mis en place et développé au fur et à mesure de son run, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a repompé, réutilisé d'un run précédent? Ça, j'aimerais beaucoup le savoir. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas avec ces épisodes-là que j'ai compris que Banner avait un esprit fragmenté, qu'il avait un trouble dissociatif de la personnalité, puisque ça, j'ai commencé bien plus tard, en fait, la série Hulk quand j'étais gamin. Mais c'est vraiment le truc qui, pour moi, est fondamental dans l'amour que j'ai pour le personnage. C'est-à-dire que pour moi, Ouga Bouga la bagarre ne peut se justifier que s'il y a psychologiquement derrière un personnage qui est torturé et qui est complexe, infiniment complexe de par toutes ses personnalités. Et voilà, je ne sais pas si c'est la première fois en fait que ça apparaissait, j'aimerais beaucoup que vous nous le disiez, soit par message ou dans les commentaires de cette vidéo, ou par message si vous nous écoutez en podcast, si vous avez des infos là-dessus, parce que vraiment, je trouve que cette idée, elle est extraordinaire. On sent que Peter David, là, il tient un truc depuis quelques temps, et qu'il le sait, qu'il va faire ça depuis un sacré moment, ça se sent, et qui fait justement monter cet enjeu très lentement, très intelligemment. Il fait la même chose avec le Panthéon, c'est pas quelqu'un de pressé, pour le coup. C'est-à-dire qu'il va.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Tu sens qu'il a un plan.
Tu vois. Ouais. Mm. Et je le dis souvent, mais c'est vrai, et j'aime bien le répéter. J'aime beaucoup, en fait, quand il y a des scénaristes qui ont des plans à court terme, des histoires en un ou deux épisodes, comme on a pu le voir avec Sam Keefe, là, sur deux épisodes avec les Defenders, et qui ont à la fois une toile de fond qui va se dérouler. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils jouent pas que sur une seule corde, qu'ils arrivent à manipuler plusieurs temps dans leur récit. Et ça vraiment, c'est des trucs qui, quand c'est bien fait, qui moi réussissent à vraiment m'emmener. Quelqu'un qui le fait très bien, c'est Geoff Johns, par exemple. Tu vois,
ouais,
il
ouais.
le fait même encore mieux que Peter David, à mon goût. Mais pour le coup, le Peter David, il le fait vraiment bien. Je parle beaucoup, mais on arrive sur les épisodes que j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ces deux épisodes avant qu'on passe à la suite.
Non, ben, on a la résolution, donc ben, ils arrivent à choper donc le monstre et à le balancer dans cette porte, du coup, dans l'esprit de Banner, et on voit le monstre qui est terrifié et qui referme la porte sur lui. Et à la fin, donc il y a Strange qui dit à Banner, t'as une sacrée cicatrice dans le dos.
Ouais.
Et tu vois, c'est là que c'est intelligent de la part de David, parce que moi je pensais que c'était parce que déjà en plus ça, il lui dit avant toute cette histoire de monstre, voilà, il lui dit tiens, t'as une cicatrice dans le dos quand même. Et moi je pensais du coup que c'était vraiment lié à ce monstre dimensionnel et tout. Et non, parce qu'il lui redit à la fin, Strange, il lui fait, c'est sûr, tu veux pas que je le regarde quand même pour cette cicatrice? Et Banner lui fait non, c'est bon, ça va, ça me dérange pas. Et voilà, donc cet épisode se finit comme ça, donc. Un gros interlude sympa pour ce qui va arriver par la suite, qui va vraiment entamer, donc, comme tu disais, le plan de David.
Et la porte, à un moment donné, qui s'ouvre, mais qui referme immédiatement.
Oui, et qui balance. Voilà.
Joe Fixit, qui voit ce qu'il y a derrière et qui.
Ouais. Il referme cette porte et vite, ouais, ouais. Voilà, vite, il referme la porte.
Et l'épisode suivant, c'est 372, si je dis pas de bêtises.
Banner qui retrouve Betty.
Au couvent. Parce que pourquoi pas.
Oui, ça m'a fait penser vraiment à Mac d'Ardeville. Tu vois, c'est. Oui, pourquoi pas au couvent.
C'est ça, ouais. Tu vois, c'est vraiment des restes de.
Ouais.
C'est des restes de vieux monde.
Mais c'est
la
ça,
femme, parce qu'en fait. Elle a perdu un enfant, elle est triste. Bon, ben, qu'est-ce qui lui reste? Bah, le couvent, hein, j'ai envie de dire. ça ne
pas t'es être sûr qu'il n'y a chose. Pas une autre solution? Non, non. Couvent.
Ouais, couvent.
Non, couvent. C'est. Et c'est pareil, ça m'a fait vraiment l'effet d'un. Oui, d'une autre époque. Hein. C'est...
Ouais. Et là aussi, c'est important, tu vois, ce sera important de se rappeler que Peter David, il est capable de faire ça et de le mettre en parallèle avec ce qu'il va faire un petit peu plus tard avec le personnage de Betty. Et moi, c'est de la manière dont il l'écrira un tout petit peu plus tard que moi, j'ai découvert réellement, pleinement Betty. Et c'est la Betty que j'aime. Betty, coupe courte, cheveux blonds, avec un caractère en acier trempé, fille de général, et il ne va pas falloir la faire chier, et avec une femme de caractère, quoi, une femme de tête et une femme de caractère.
Bon, on sent qu'il a des choses à lui faire vivre, à Betty.
Ouais.
Il ne veut pas la lâcher comme ça.
On y reviendra après, parce qu'après, il y a un trio qui va commencer à se dessiner entre Betty, Rick, Marlo.
Mm.
Et
donc sur cet épisode, d'abord, Banner pense que Betty a pris le train et qu'il l'a loupé. Et il se fait attaquer par Prométhée, du coup.
Ouais, ça y est.
Il se fait attaquer, voilà.
Confrontation.
Il se fait attaquer par Prométhée et lui, il est en mode foutez-moi la paix, il faut que je retrouve Betty, pourquoi le monde ne me laisse pas tranquille, laissez-moi tranquille. Et ça tambourine fortement à la porte, du coup, dans son esprit. Et là, la cicatrice qu'il a dans son dos se déchire et on a le Hulk vert qui réapparaît.
Ouais,
et Prométhée.
Littéralement, du corps de Banner.
Voilà. Et Prométhée qui, donc, sur une splash page, enfin, une pleine page avec Hulk qui hurle, genre, je sais plus, laissez-moi tranquille ou un truc comme ça. Et donc la voiture de Prométhée qu'on apprend qui était faite pour maîtriser le Hulk gris qui est moins puissant se fait mais défoncer par le Hulk vert qui est la rage incarnée, hein, donc voilà.
Et
là on a vraiment, voilà, et là on comprend que Il y a trois personnalités, du coup, il y a Banner, Joe Fixit et le Hulk.
Ouais, et que le Hulk vert, il a défoncé la porte et qu'il ne va pas se laisser renfermer comme ça. Et tu vois, juste tu vois, pour jouer sur cette notion de puissance, de la manière dont il le fait en prenant le véhicule comme prétexte, que ce véhicule, avec le Hulk gris, il a ses chances, il peut le démonter avec le Hulk vert. La question ne se pose même pas, il se fait démonter. Et là aussi, tu vois, un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'on a vraiment une transformation qui est dégueulasse, qui est sale, qui fait penser à Immortal Hulk.
Il change de peau. C'est vrai, il déchire la peau de Banner, la peau reste au sol. D'ailleurs, les agents de la police la retrouveront plus tard par terre. Et c'est vraiment ça. C'est, comme tu dis, comme Immortal Hulk, c'est vraiment une transformation dégueulasse. Quoi. Ouais.
Cette transformation-là, typiquement, on la reverra dans Immortal Hulk, voire même encore plus dégueulasse, d'une manière beaucoup plus exacerbée. Mais elle est monstrueusement bien faite. Et en plus, elle est faite intelligemment. C'est-à-dire que tu as la page de droite sur ton comics où tu vois la peau qui se déchire, qui se craquelle, la main, le dos, le machin. Tu tournes et là, boum, pleine page, Hulk. Qui hurle avec du sang de partout, des bouts de peau de Banner de tous les côtés. C'est grandiose, quoi. Magnifique. Et là aussi, la cover de cet épisode, elle est tout simplement dantesque. Sans déconner, ça fait partie des covers les plus belles que je puisse. Je suis content, je l'ai dans ma collection et que je puisse avoir. Alors, c'est facile à trouver, hein, celle-là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais mon Dieu, que c'est magnifique, quoi.
Là, Peter David, il plante vraiment le décor de. Ouais, il y a plusieurs personnalités dans l'esprit de Banner. Et là, tu te dis en tant que lecteur, c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres par la suite. Quoi.
Et on arrive sur le 373, si je te dis pas de bêtises, où c'est la résolution en fait de ce qui se passe avec l'armée qui arrive autour du couvent, le Doc Samson qui arrive aussi.
Oui, qui a toujours un train de retard, par contre, le mec. Le mec a toujours un train de retard. Il passe son temps à les courir après.
Ouais. Et la résolution, baston avec l'armée. Mais là, cette fois-ci, c'est plus le Hulk vert, c'est le Hulk qui revient. On est vraiment sur cette période où Banner essaye de choisir avec qui tu veux t'allier.
En fait, c'est ça, c'est que dans l'urgence, il veut se transformer, hein, Banner. Pour défendre Betty et c'est le Hulk gris qui retient la porte du coup parce que Hulk vert est enfermé dans la porte qui retient la porte et lui il veut se transformer et Joe Fixit ça lui dit choisis, il dit si tu ne choisis pas moi je viendrai pas en fait, donc il est obligé de choisir Joe Fixit pour combattre donc l'armée et Doc Samson.
Et là, la lutte interne, tu vois, c'est ça que j'aime, tu vois, c'est quand la lutte interne, elle a des conséquences sur la réalité, sur le monde réel, quoi, tu vois. Et que les gens autour ne comprennent pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Et que nous, en tant que spectateurs, entre guillemets, je sais pas comment on dit, divin, hein, quand tu sais tout, quand t'es vraiment positionné, que tu vois tout, en fait, ce qui se passe, et toi, tu comprends les rouages et c'est purement, purement magnifique. Et avec une fin d'épisode, là aussi, qui est vraiment sympa, avec une conversation entre Betty et Joe Fixit, où tu vois que là, déjà, Betty, ça y est, il y a déjà un changement là, de caractérisation.
Ouais. C'est ça.
Elle dit à Joe Fixit, en fait, t'as peur de moi. T'as peur de moi. Et là, il y a un renversement qui se fait. Quoi. Et c'est pas faux. Et c'est pareil. Joe Fixit a un peu peur d'elle, des sentiments qu'il pourrait avoir pour elle, d'être comparé, du coup, d'être comme Banner. Et tout ça, ça lui fait bizarre. Et ils partent après dans un délire, une blague à la Peter David, et tu les vois les deux éclater de rire, et c'est la fin de l'épisode.
Voilà, c'est ça.
Fin d'épisode, et c'est la cover du 373, d'ailleurs. C'est Betty et le Hulk gris qui sont morts de rire. Là aussi, hein. J'en ai pris plein la gueule, quoi. C'était vraiment majestueux. Et ensuite...
374-375, alors c'est une histoire avec des Skrulls. Donc du coup, Betty et Banner se mettent en tête de retrouver Rick Jones. Et en le cherchant, en fait, ils vont se rendre compte que Rick Jones a été pris au piège. Qu'une ville est sous l'emprise des Skrulls et que Eric Jones a été pris au piège par les Skrulls et qu'apparemment ils veulent utiliser le pouvoir qu'il avait utilisé pour mettre fin à la guerre Kree Skrull. Donc ça, mes connaissances là-dessus sont vachement limitées, je vais pas te le cacher. Donc voilà.
Pareil,
donc,
c'est pas forcément un truc. Et le pire, c'est que j'ai le Marvel Best Of que j'ai dû acheter il y a 2 ans.
Pareil, je l'ai acheté, j'ai pas lu la guerre Kree Skrull.
Ouais, pareil. Il est là, hein. Je l'ai pas lu non plus.
J'ai pas encore pris le temps de le lire, mais c'est un truc qu'il faudra que je lise.
Non.
Mais ouais.
Non, écoute. Un interlude. Putain, deux fois, j'ai du mal avec le mot interlude, moi. Faut se dire les choses, franchement. Je sais pas si on le lira, mais on est content de le posséder. Alors, clairement, voilà. C'est un pan de l'histoire de Marvel et on est content.
Oui, oui, ça fait partie de cette saga qu'il faut avoir lu, quoi.
Qu'il faut avoir.
Luc. Et donc là, ouais, on est dans un petit, dans deux numéros sympas où on a donc voilà toute une histoire avec Betty, Banner qui se font prendre en otage par les Skrulls, Hulk gris, Joe Fixit qui se transforme, qui se tape dessus avec le Super Skrull, donc parce qu'il y a aussi le Super Skrull qui a le pouvoir des Quatre Fantastiques, ça c'était, enfin c'est cool, j'aime bien Super Skrull.
Ouais, pareil.
Et donc il se bat avec Hulk qui a clairement le dessus quand même. Et voilà, donc c'est deux numéros rigolos, sympas, avec de l'humour de l'époque, avec un Rick Jones qui balance des blagounettes, un peu la Spider-Man tout le temps.
Rick Jones qui est l'archétype du jeune qui a la classe à l'époque.
Oui, non, c'est ça. Insouciant, qui a une guitare.
Cheveux longs, guitare, Nirvana. Ouais, on est à fond là-dedans. Quoi.
Ouais.
Et les Skrulls dessinés par Del Keown, qu'est-ce qu'on en dit?
Moi, j'ai bien aimé. Hein. Oh. Bon, c'est ouais, franchement, j'ai bien aimé.
C'est les plus beaux Skrulls que j'ai vus de ma vie. Ils sont
magnifiques. Le Super Skrull est hyper bien dessiné. Avec
ouais.
La façon qu'il a de gérer les quatre pouvoirs des Fantastiques, c'est... Non, franchement, c'est beau, c'est propre. Non, ah, alors, franchement, niveau dessin, il s'éclate, on sent que ouais, ça l'éclate de faire ça, on sent que Peter David et lui communiquent bien. D'ailleurs, Peter David l'avait dit que c'était l'un des dessinateurs sur le run avec lequel le dessinateur qui arrivait le mieux à retranscrire en fait ce qu'il voulait faire passer. Et ouais, ça se sent, il est vraiment à l'aise, quoi.
Et chose aussi, tu vois, que je trouve super importante à dire, c'est que là, il a fait grosso modo, si on compte pas celui avec Marie Séverin à l'ancrage, c'est son 7e épisode, 8 avec celui avec Marie Séverin, entre le premier et le 7e, mais quelle constance dans le dessin.
Ah oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de variation, d'évolution. Enfin, il a son style, il a trouvé son style surtout. Et il n'en changera pas. Quoi.
Énormément.
Ah oui,
c'est sûr.
Ouais. Il fait un bon taf
aussi. Ah oui, non, mais carrément. Carrément.
Il sait s'effacer devant son style, mais tout en.
Le renforçant.
En le renforçant, en travaillant les ombres. Et franchement, c'est propre.
Et je serais très très curieux de voir des crayonnés originaux de Del Keown comparé à des versions ancrées avec la couleur, tu vois, pour voir la différence et l'apport réel et concret de MacLeod, vraiment. Mm-hmm. Parce que, et quel nom, MacLeod, mais moi,
avec ça.
Mais c'est pas possible, moi il me fait ma soirée, moi, MacLeod. Putain, mais t'imagines.
Il ne peut en rester qu'un.
Tu vois. Tranquille, tu t'appelles Bob MacLeod et on te dit, tiens, il y a un film qui sort, Highlander. Ah ouais, il s'appelle comment? MacLeod. Et ça prend cette proportion-là. Et t'as pas une paire de boules, mais incroyable, non? Que ton nom, il soit associé à ça et à Christophe Lambert. Je sais pas. C'est chaud quand même. C'est chaud. Je connais un bon ami, il s'appelle Jean-Alain Terminator. Et ben, tu sais que ça peut être facile pour
les joueurs. Ah, après, les MacLeod en Écosse, ça doit quand même être les Dupont chez nous. Tu vois.
Je présume qu'il doit y en avoir 2-3.
Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns.
Et on arrive au dernier épisode, le 376.
Exactement.
Qui est... Alors là, on est... On est dans ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que le niveau de lutte interne de Bruce Banner, entre Bruce Banner, le Hulk gris, le Hulk vert, arrive à un tel niveau qu'au cours de la nuit, de la journée, son corps va se mettre à changer suivant les humeurs. On sent qu'il y a une lutte interne en lui qui est absolument mémorable, où on a le Hulk gris et le Hulk vert qui, à l'intérieur de l'esprit de Banner, se mettent sur la gueule pour la domination, bah, hein, ni plus ni moins. Ah.
Avant ça, Banner a réussi à enfermer les deux dans la porte. Derrière la porte.
Ouais, putain, je me rappelle pas de ça, tu vois.
Il a chopé les deux, il les a enfermés. Parce que là, il est en fait dans l'appartement de Rick Jones, il récupère. Ouais. Il est avec Betty. Il a réussi, en fait, sur un coup de poker, à balancer le Joe Fixit et le Hulk vert derrière la porte. Il les a enfermés, il s'est dit, c'est bon, j'ai plus Hulk en moi, en fait. J'ai réussi à me débarrasser
de lui. Ah ouais, ouais, tout à fait, exact. Ouais, ouais.
Il y a Marlo.
Il tape à deux derrière la porte.
Il se tape aussi dessus, surtout. Et ouais. Il y a Marlo qui débarque et qui, on apprend, est la copine, la fiancée de Rick Jones.
Tout à fait. Et qui est l'ex de Joe Fixit.
C'est ça. Et en fait, tout là va se mettre. Elle va reconnaître Banner et elle va dire Mais je suis sorti avec son frère. Son frère qui était vide. Et là, tout le monde commence à comprendre qu'en fait, elle est sortie avec Hulk, avec Banner, enfin Hulk, avec Joe Fixit, donc avec Banner, ouais. Elle est sortie avec lui, qu'ils ont une relation. Betty commence à demander, mais tu connais cette femme, tu m'as trompé, enfin, elle commence à se entendre. Rick Jones qui dit, mais comment ça, tu t'es fait Banner. Et lui, il commence à se tenir la tête et à dire, laissez-moi. Et là, la porte va en éclat. Il y a Joe Fixit qui se met sur la gueule avec le Hulk vert. Et là, donc, c'est comme tu disais, on voit dans le monde réel qu'il a une main grise, un bout de tête vert, et en fait, il rentre complètement en conflit. Il se tape dessus lui-même, parce que vu que les deux Hulk se mettent dessus, il s'étrangle, parce que le Hulk gris étrangle le Hulk vert, et donc ça part totalement...
Banner essaye de se mettre au milieu, enfin, c'est l'hécatombe la plus complète. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui va rester du personnage à la fin?
Et le pire, c'est que moi, quand je lisais ça, j'étais en mode, mais laissez-le tranquille. Tu le vois, tu sais que le mec, il va exploser, tu sais, monsieur. Ouais. Calmez-vous, laissez-le.
Non, puis quand tu vois, là, tu vois, t'as Betty qui pleure, quand elle commence à s'étrangler lui-même et à étouffer, tu te dis, putain, mais il va crever, quoi, ni plus ni moins.
Et donc, il y a Banner qui les sépare. Qui met KO, ouais, en fait, les deux personnalités, ouais. Donc de Hulk gris et Hulk vert, et il s'évanouit, donc ça s'unit, l'intégrale se finit comme ça. Il y a Doc Samson qui arrive justement à ce moment-là, toujours à 4 heures de retard, mais il est là.
Et, tu viens d'un point à qui sait attendre.
Voilà, et ça se finit comme ça, donc avec Betty qui pleure sur le corps, sans connaissance de Banner.
Et moi je dis Doc Samson, hein. Je préfère le dire à tout le monde. Deadpool, oui. Doc Samson. Strange, Spider-Man.
Oui, bon, après, c'est comme ça, c'est Doc Samson, je pense.
Voilà. Faites avec.
débrouillez-vous.
Ah ouais, débrouillez-vous. La chaîne a 4 ou 5 ans d'existence, je sais plus. Moi, je suis plus à ça après. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est Doc Samson depuis que j'ai 12 ans, c'est mort, c'est Doc Samson. Que ce soit ça ou pas, c'est comme ça.
Non, mais non, on sent vraiment que fin 89, Peter David, il a passé de bonnes fêtes. Non, oui. Fin 89, il a passé de bonnes fêtes. Tu vois, il s'est remis en question. Mais ouais, là, 90, c'est bon.
Il a repris 3 fois de la dinde, il a dit à Madame David, ouais, c'est vrai que j'ai déconné cette année. C'est vrai, mais bon.
C'est ça.
Perfs, il faisait vraiment de la merde. Ouais, mais reprends-toi quand même.
Et ouais. Par contre, tu vois, là où toi, tu me disais que tu penses que Perfs est arrivé à une fin de contrat. Moi, je me demande s'il n'a pas été poussé vers la porte.
S'il a été poussé vers la porte.
T'as pas vraiment de contrat, surtout à cette époque-là. Hein. C'est plutôt t'es en silence, t'es payé à l'épisode. Hein, donc,
S'il est poussé à la porte, pourquoi pas le dégager avant, quand c'était encore bien pire que ça?
Bah, parce que 89 fois, on a atteint un sacré sommet. Là. Peut-être que David se voyait pas continuer avec un style pareil. Hein. C'est possible aussi, je sais pas.
Je sais pas. Vraiment, je serais très très curieux.
Faudrait qu'on arrive à demander à Peter David sur une convention.
Oui. Ouais, mais il doit y avoir des interviews, des trucs comme ça. Mais là, après, on est limité. par notre anglais inconstant.
Mais, bah, même pas, mais quand tu... Même pas, parce que quand j'essaie de trouver des trucs sur Purse, et, moi, tu trouves rien, donc ouais, je sais pas.
Et en alors, tout cas, grosso modo, si tu devais donner ton avis d'une manière générale sur cette intégrale 90, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu conseillerais cette intégrale? Si oui, à qui, comment, pourquoi? Dis-moi tout, je veux tout savoir.
Alors moi, oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, on sent vraiment que les graines de ce qui va faire le sel du run de Peter David sont là. Comme je l'avais dit, pour moi, il faut lire quand même la période McFarlane. Parce que clairement, il faut la lire. Parce que déjà, c'est le début du Hulk gris. Puis c'est bien dessiné. Franchement, c'est beau, c'est cool. On peut passer 89. Clairement, on peut passer 89. C'est vraiment pas utile. Et ouais, non, 90, ouais. Si quelqu'un qui veut vraiment lire le run de Peter David, ouais, il faut le lire.
C'est encore plus inutile, en fait, de lire 89 et de posséder 89 quand tu sais que les meilleurs morceaux de Purve sont fin 88 et début 90. Et tout le milieu 89, c'est de la merde. Donc si tu as juste le début de Purve et la fin de Purve, t'es bien. T'es plutôt bien. Vraiment,
c'est comme 89, quand
tu peux passer complètement à côté, on s'en fout royal. Quoi.
Quand on parlait de l'épisode interlude de Kiss, tu disais que il y a des épisodes comme ça, ben c'est un peu mauvais, ça sert de bouche-trou, on sait pas pourquoi c'est là, ça sert à rien. Le problème, c'est que 89, c'est que ça. C'est des mini-arcs ou des épisodes esselés, mauvais, mal dessinés et qui ne servent à rien. Et c'est que ça, c'est rempli de ça.
À qui tu pourrais conseiller cette intégrale 90?
À quelqu'un qui a quand même déjà, je dirais, quelques années de lecture, ou en tout cas pas mal de récits récents à son actif, et qui voudrait lire quelque chose de plus vieux.
Ah, Mathieu, je ne dis pas comme toi. Moi.
Je conseillerais pas ça à quelqu'un qui est fraîchement débarqué dans les comics, tu vois, dans la lecture de comics, quand même.
Pourquoi? On a commencé sur plus difficile. Regarde où on en est.
Tu veux qu'ils finissent comme nous? Non, mais parce qu'il y a des choses quand même. Il y a des... La narration, il y a... même si elle passe bien, elle est un peu datée quand même.
Laissez-moi, je vais lui péter la gueule tout de suite.
Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. 90, t'écris pas les comics comme en 2020. Hein. Donc
oui, mais c'est pas grave.
Ah non, c'est sûr, mais tu vois, je pense que pour vraiment apprécier ça, et c'est vraiment, t'as envie de découvrir du Hulk plus ancien, une période de Marvel plus ancienne, tu vois.
Moi, tu vois, je dirais que s'il y a des gens qui ont lu Immortal Hulk et qui apprécient Immortal Hulk et qui ont bien compris le délire des personnalités multiples, je pense que s'ils ont envie de prolonger un petit peu cette expérience-là et de se plonger dans ce qui a fait, où est né en fait ce principe-là, il faut commencer avec 1990. S'il y a des gens qui ont aimé, par exemple, les films Avengers, Infinity War, Avengers Endgame, tout ça, et qui aiment beaucoup le délire du professeur Hulk, que j'adore aussi, mais le professeur Hulk des films, c'est Joel Clodo. Que ce soit bien clair, c'est Joel Clodo comparé à ce qu'il va y avoir dans les comics, ne serait-ce que par la densité et la dramaturgie qu'il y a autour du personnage, dramaturgie qui naît vraiment dans cette intégrale de 1990. Toutes ces personnes-là, je leur conseillerais d'aller quand même là-dessus, parce que même si la narration, forcément, elle a pris 30 ans, moi, je suis mal placé pour juger de ça. C'est ma zone de confort. C'est mes 10 ans, c'est mes 12 ans, c'est mes 14 ans. C'est là où je suis. C'est ma zone de confort. C'est ma Madeleine de Proust. Donc moi, je suis pas tellement habile en fait pour juger cette période-là vraiment d'un œil totalement extérieur. Je l'aime énormément. Néanmoins, j'ai lu des trucs des années 80, des années 70, là en ce moment des années 60, ça n'a rien à voir. C'est la prise en main, elle est quasiment instantanée à partir du moment où tu as Del Kyun qui arrive dessus. Et ça va se poursuivre avec Del Kyun et ensuite avec Gary Frank. Je pense sincèrement que c'est un excellent point de départ pour des gens qui auront envie d'en découvrir un petit peu plus sur le personnage de Hulk. vraiment. Mais voilà, c'est un incontournable. Vous n'êtes peut-être pas obligé de passer sur 87-88. Si vous voulez commencer avec 90, vous pouvez. Si vous aimez, ça peut peut-être vous donner envie d'aller voir ce qui s'est passé sur 87-88. Ouais. Peut-être que ça peut marcher aussi comme ça. À vous de voir. Moi, je te dis, j'ai commencé Hulk en plein milieu d'un épisode, en plein milieu d'un arc. Et c'est cet épisode-là. Oui.
Après, on a tous commencé, moi aussi, quand j'ai commencé à lire Marvel, je suis arrivé à l'arrache, un peu après Civil War, je crois. Voilà, j'ai raccroché les wagons et débrouille-toi. Comme ça, sur toutes les séries, ça se passe bien. Mais c'est vrai que maintenant, bon, pas plus exigeant, mais plus en face d'un public qui aime bien avoir vraiment un point d'entrée idéal.
Et ce qui est paradoxal, tu vois, c'est qu'on n'a jamais eu autant de facilité à raccrocher les wagons avec Internet, Wikipédia, Marvel Fandom. C'est ça. Enfin, c'est d'une facilité incroyable, en fait, de raccrocher les wagons et de te faire, de remettre un petit peu dans l'axe, tu vois, pour commencer. Et ça n'a jamais été aussi simple. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent que ce soit quasiment du pré-mâché. Mmh. Et le pré-mâché, c'est les films. Voilà.
Ah oui, non, films, de toute façon, on l'a dit et redit, il n'y a pas de meilleure solution que de prendre un livre et de l'ouvrir. Et de toute façon, tu as 80 ans de continuité, tu as des 45 séries parallèles sur un même personnage. Enfin, tu n'auras jamais un point d'entrée idéal. Ça, c'est des conneries.
Non, il faut se construire.
Il faut se construire. Tu as des séries plus abordables que d'autres, par exemple. Si tu vas sur un Ultimate Spider-Man pour découvrir le personnage, des choses comme ça. Mais sinon, comme tu dis, il faut que tu fasses ton point d'entrée, tu prends quelque chose, tu raccroches les wagons, c'est comme ça.
Mais là, c'est le bon délire. Tu passes les trois premiers épisodes qui te mettent un peu dans l'histoire. Tu lis l'édito au début, tu lis les 3-4 premiers épisodes où tu termines la période peur, tu fais ça me kiffe, Derrière, boum, Delkyone, tu colles 2-3 fois devant les planches. Et puis t'avances gentiment, quoi. Et le meilleur reste à venir. Là, c'est rien.
Pour le coup, j'ai bien hâte de lire 91, quoi.
Allez, on y va, là. On est parti.
Allez, on raccroche.
Voilà. je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Oui.
Pour cette intégrale. Qu'est-ce qu'on peut vous rajouter d'autre? Que c'est, comme d'habitude, un vrai plaisir, mon cher Spider-Man, de faire ça avec toi. Et c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais je le pense sincèrement, c'est un privilège de pouvoir à la fois les relire avec un bon copain, de pouvoir prendre des notes dessus et de pouvoir essayer d'en parler avec des gens et essayer de vous donner envie, peut-être à votre retour, de découvrir ces runs-là. Voilà. On va, à mon avis, pas tarder à attaquer 91. Blague à part. Je pense qu'on va pas tarder du tout.
Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Oh ouais. Moi, j'ai hâte de vraiment voir la suite. Quoi.
Ouais. Ah ouais, et puis là 91, j'ai envie de dire, je joue à domicile. Quoi. Bah, ça y est, là, je suis chez moi.
Non, puis quand tu vois ce qui arrive, quand tu sais les artistes qu'il y a sur cette période, là maintenant, on a passé Perth, on a passé 89. Ouais. On est dans le bon Keon. Ça peut que bien se passer.
Il va y avoir des trucs de ouf, hein. Graphiquement, tout.
Ouais, non, franchement.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire
si je pense qu'il n'y aura pas autant de temps. Je pense qu'il n'y aura pas autant de temps d'attente qu'avec.
Non. Bon, on ne va pas se mentir, je vais aller la feuilleter tout de suite après, quand même, parce que pour me la remettre.
Pour te mettre dedans, c'est ça. Voilà.
Si vous nous suivez sur YouTube, merci. Vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. Si jamais c'est pas forcément confortable d'écouter ça sur YouTube, on le sait, on est bien au courant. L'avantage, c'est que sur YouTube, j'essaye d'agrémenter ça par des petites images qui permettent de joindre, on va dire, la parole avec des moments graphiques des épisodes qu'on est en train d'évoquer. Sinon, évidemment, vous pouvez nous suivre en podcast sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. etc. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à venir en parler avec nous dans les commentaires, à nous envoyer des messages. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir et on est toujours désireux de pouvoir en parler avec vous, soit parce que vous les avez lus, soit parce que vous avez envie de les lire, soit parce que vous avez des questions. Il n'y a aucun problème, on est là pour y répondre et échanger. Le plus important, c'est d'échanger autour de la culture, et notamment de la culture comics. Voilà. Merci Spider-Man.
Mais je t'en prie. Et d'ailleurs, on peut ajouter que tu fais le même genre d'émission sur Spider-Man avec Anto.
Tout à fait. Avec une petite particularité, c'est que là, on part carrément, parce que bah, c'est disponible chez Panini, on part carrément de la création du personnage de Spider-Man. Ouais. Et on a commencé, on a déjà fait une première émission au moment où on tourne celle-ci qui est sortie avec d'excellents retours. Vraiment, et ça fait super plaisir. Et j'ai été contacté par quelqu'un qui est vachement chaud pour faire les Iron Man avec moi.
Ah.
Et non. Et ben, mais tu vois, le truc qui est marrant, c'est qu'il m'a dit, putain, on pourrait commencer par 78-79. Et tu sais, comme moi, que c'est celle que je viens d'acheter. Parce que j'ai dit que moi, je commençais les intégrales Iron Man par celle-là, par 78-79. Oui. Et d'un côté, j'ai fait, ah, j'ai bien le goût, tu vois, parce que ça me titille quand même à mort. Et d'un autre côté, putain, faut faire ça. Enfin, ça représente quand même du taf. Il y a l'univers X avec Mondramout, les lives, la vie à côté, voilà, les autres projets qu'il peut y avoir. C'est un peu compliqué. Donc, vous emballez pas sur Iron Man, mais dis-toi bien, mon copain, je cite pas ton nom, mais j'ai bien gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est pas impossible qu'on fasse un de ces quatre matins. Vraiment, ça peut être très, très cool. Mais là, tout de suite, ça va être chaud. Là.
Bah, là, déjà, une fois qu'on aura fini Hulk, ou en tout cas qu'on aura rattrapé les intégrales sorti par Panini, on a déjà une idée de d'autres séries, nous deux. On en avait parlé.
C'est vrai?
Ah oui.
Tu me fous le... On avait dit quoi?
Wolverine. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 3 ou 4, je crois, non? 4 en VF, donc parce que Panini, là encore récemment sur les réseaux sociaux, ils l'ont dit, ils n'ont toujours pas les fichiers dont ils ont besoin pour la 93, je crois. Ouais. Donc ils n'ont toujours pas. Donc,
bon. Ça me fait chier parce que c'est à partir de là que je trouve que ça devient extraordinaire. Ça fait 7 ans que j'attends.
J'espère que. Bah voilà, je les ai achetés. Bah, j'attends juste la réédition de 91, je crois. C'est l'année prochaine. Parce qu'elle est hors de prix, celle-là, je n'ai pas réussi à l'avoir. Mais les autres, je les ai toutes achetées, du coup, il y en avait quelques-unes. Et voilà.
Mais il y en a plein qui peuvent être. Enfin, c'est intéressant, je trouve, quand tu le fais de cette manière-là, tu vois, en essayant de décrypter succinctement épisode par épisode et puis de te remettre dans le délire et puis de le faire à plusieurs. C'est vraiment ça qui.
Ça a commencé comme ça, hein, l'émission de Hulk, c'est que j'avais commencé à lire 87-88. Je te dis, c'est con en fait de lire un run comme ça et de ne pas en faire quelque chose, de ne pas en profiter pour faire quelque chose. Et visiblement, ça plaît. Donc, ça qui
compte. Oui, carrément. Après, voilà, de toute façon, on va pas se mentir, hein. On n'est pas là pour les vues.
Hein. Oh non, clairement pas.
Alors, c'est fini,
Stéphane. Oh, mon Dieu. On s'amuse. S'il y a des gens qui s'amusent en nous écoutant, c'est cool.
Ouais, et puis si on peut partager, apprendre deux, trois trucs à quelqu'un.
Et donner envie à des gens de lire ça.
Ouais,
on en voit dans les commentaires YouTube, certains qui sont mis à lire en même temps que nous.
Carrément.
Et les intégrer, et ça, c'est cool. Ça.
Carrément. Ouais, non, il y en a pas mal hein, qui nous suivent et qui se font intégrale après intégrale. Et ouais, enfin, c'est génial, c'est motivant. Comme tout à l'heure, tu vois, je lisais dans les commentaires. Quelqu'un, un commentaire de la vidéo avec Anto là, sur 1962-1963, les Spider-Man, qui disait « Allez, c'est quoi, vous m'avez chauffé, je l'ai commandé. »
Et il y en a beaucoup des intégrales Spider-Man.
Ouais, mais c'est génial. Et c'est absolument pas, tu vois, qu'on se sente influenceur ni quoi que ce soit. Absolument pas. Je reprendrai l'expression de Frankie qui disait qu'il n'était pas influenceur, qu'il était conseilleur. Voilà, c'est exactement ça. On est conseilleurs, on partage, on parle de ce qui nous passionne. Et si à un moment donné, ça résonne chez quelqu'un et que ça lui donne envie eh ben, de découvrir à son tour, eh ben, c'est super cool. Et voilà. Et il y en a, même si ça ne leur donne pas envie, je pense à quelqu'un qui suit régulièrement ce genre d'émission. C'est Sébastien Boudère. J'espère que je dis bien son nom. Boudet. Ah, j'espère que je le dis pas mal. Mais il se reconnaîtra et c'est un lecteur comme moi qui est un petit peu plus ancien et c'est un lecteur ancestral et c'est pas, tu vois, c'est pas des gens par exemple qui vont faire du bruit sur les réseaux sociaux qui vont afficher dans leur bio ouais je suis expert de ci ou je suis expert de ça, non t'inquiète pas, mais par contre ils ont une culture comics qui est vraiment énorme, bien au-delà de la tienne, de la mienne, de, enfin, ça n'a rien à voir, et qui viennent régulièrement sur les vidéos, en commentaire, pour en parler, et voilà, et ça aussi, c'est génial, quoi. Vraiment, vraiment, merci de nous suivre là-dedans, c'est un gros, gros kiff. On a fait des belles prolongations, mais j'avais envie de le dire aux gens.
Ouais, non, c'est clair. Voit que chaque fois qu'il y a à chaque vidéo, il y a un engouement, et franchement, ça fait plaisir, quoi.
Tout à fait. Voilà. Et si Panini veut sponsoriser, bon.
Allez. Et on a une intégrale Hulk qui est sortie cette année, je suis pas sûr.
Oui, bah oui, mais 64 et des bananes.
Non, Hulk. Ah, celle-là, oui.
Oui.
Oui, mais je dis du run de Peter David, non.
Ah non, non, pas cette année, je crois pas.
Oui, parce que du coup, ils ont.
C'est l'année dernière qu'on a eu 94.
Ils ont.
Je crois.
Ouais, ils ont décidé de combler le trou entre la création de l'intégrale qui comprend la création de Hulk et l'arrivée de Peter David. Et là, personnellement, moi, je ne compte pas les prendre, celle-là. Moi, tu l'as déjà.
Des ones. C'est sûr. Mais je ne l'ai pas lu en entier, tu vois, par exemple. Là, c'est pareil, tu vois, je picore petit à petit. Et c'est pas tellement ces épisodes-là, moi, qui m'intéressent pour l'instant. C'est plus ce qu'il y aura après. Dans quelques années, je sais qu'il y a du Herb Trimp, je sais qu'il y a Sal Boucher, moi, qui a beaucoup travaillé dessus. C'est tout un tas de gens comme ça que j'ai survolé très succinctement dans des Strange Special Origins, des Aredit, des trucs comme ça, mais j'ai pas, je les ai pas en entier et j'ai pas envie de les lire en VO. Parce que déjà que c'est pas facile pour moi la VO, mais quand c'est des vieux trucs comme ça, c'est pas possible, quoi.
De toute façon, sur le run de Peter David, c'est une intégrale tous les deux ans, je crois.
En moyenne, c'est ça. Et je crois qu'il y a eu une fois où on a attendu trois ans. C'était un moment de désespoir.
Non, c'est ça dans l'édito de 90. Quatre ans.
Ah, voilà.
Entre 89 et 90, c'est quatre ans. Panini a attendu. Bon, après, c'était une autre époque aussi. Il n'y avait pas l'engouement qu'il y avait pour les comics maintenant, et surtout sur les intégrales.
Mais même, les intégrales, c'est la folie. Je crois qu'ils sont à peu près dans l'idée d'en publier une intégrale tous les deux ans en Alpha Flight, hein, pas plus. Hein.
Après, je sais pas, tout dépend des fichiers aussi, comment ils arrivent à s'arranger avec Marvel. Ça dépend de plein de choses, je pense.
Et puis, ils diluent aussi dans le temps. Et puis, attends, t'as une collection d'intégrale qu'il y a, quoi.
Bah, tu sais, quand on vient à sortir une intégrale Khazar,
là, j'ai vu qu'il y avait Morbius.
C'est que ça doit marcher. Il y a Morbius, il y a Namor.
Namor, 1939, 1970,
un truc. Non mais mec, moi tu m'aurais dit en 2010, un jour Panini sortira une intégrale Namor ou Khazar, j'aurais dit tu te fous pas de ma gueule.
Moi Namor, je te l'aurais dit, mais j'aurais jamais parié qu'ils allaient commencer par ça. Mais t'as le run de John Byrne sur Namor.
Oui, mais moi c'est vraiment à l'époque, c'était... Enfin, les intégrales, c'est... Les intégrales, c'est...
John Byrne sur Namor.
Ce qui se passe sur les intégrales avec Panini, c'est complètement dingue en ce moment. Depuis 6 mois, 1 an, c'est dingue.
C'est dingue et c'est inquiétant.
Bon, c'est à notre départ.
Putain, allez, on lance un live. On en reste là, mais c'est inquiétant. Mais on en reparlera peut-être une fois en live, allez savoir. Merci beaucoup, Spider-Mat. Je t'ai déjà remercié il y a 25 minutes, mais bon,
merci à toi aussi.
On vous dit à très bientôt dans les rubriques de G. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis on vous dit à très bientôt pour l'intégrale 1991. À bientôt, bisous.
Salut.